dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Tour, puis on parle du Canadien sur notre segment Habs Radio. Denis Gauthier tous les mardis et tous les jeudis. Salut Denis.
Bon matin Tony, comment vas-tu?
Ça va très bien, mais on a eu des mauvaises nouvelles sur les Milanemen. Ouais. J'imagine que tu as vu ça. C'est Alex avait vu sur les réseaux sociaux à un moment donné. C'est un journaliste qui l'avait écrit.
Oui, un article. D'un journaliste suédois, Thomas Ross, qui se serait retenu avec l'agent d'Emil Heinemann, qui aurait confirmé la nouvelle. Lui a écrit l'article, ça a commencé à circuler sur la plateforme Reddit, ça s'est transféré sur Twitter, puis quelques instants après, là, confirmé par le Canadien de Montréal.
Pour les gens qui nous écoutent au moment qu'on se parle, puis ils ne sont pas au courant, Emil Heinemann, comme piéton, s'est fait frapper par une voiture hier à Utah. Et on parle d'une blessure qui va le tenir à l'écart pour environ 3 à 4 semaines, on dit haut du corps, pour Emil Heinemann. Denis, je disais que c'est vraiment ma chance. Depuis que je couvre le Canadien, depuis 2002, là, il me semble que c'est la première fois que j'entends qu'un joueur a été heurté par une voiture comme piéton.
Moi non plus, j'ai jamais entendu ça. C'est une pure malchance. c'est tellement... bizarre que ça n'est presque comique, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment difficile à comprendre que quelqu'un peut être frappé d'un coup comme ça là. Mais tu sais, c'est pas le premier accident. J'ai déjà vu des bêtes accidents de joueurs sur la route. Exemple, journée de congé, on va jouer au volleyball sur la plage en Californie, quelqu'un se casse une cheville en sautant sur la plage, des affaires comme ça. Mais tu sais, de se faire frapper par un piéton, pour moi, j'ai jamais entendu. Quelque chose comme ça. C'est triste, c'est de valeur, parce que tu sais, on dirait que les choses allaient trop bien pour le Canadien. Il fallait trouver une façon de les ralentir un peu. Puis Emil Heinemann est une des belles surprises cette saison pour le Canadien de Montréal. Il se retrouve à égalité, je pense, au troisième rang des buteurs du Canadien avec 10 buts, égalité avec Evans et Gallagher. Fait que, c'est triste, c'est un peu chanceux dans sa malchance. Ça aurait pu être bien pire. Ouais, il n'est pas décédé. Il n'y a rien de dramatique dans son cas. Fait que, gardons. On avance, on se roule les manches, puis on continue.
Ce quatrième trio-là, on voulait, à un moment donné, cette année, là, après le premier mois, on se disait, les Canadiens, ils n'ont pas d'identité sur leur quatrième trio. Mm-hmm. Et là, dès le moment qu'ils ont jumelé Evans avec Heinemann puis Armia, ils ont trouvé une certaine identité. Mais ça, c'est drôle parce que, Denis, j'aurais pensé que ça n'aurait pas fonctionné pour eux autres. Je vais juste expliquer. Moi, quand je pense à un quatrième trio, je pense à un trio qui peut donner de l'énergie, changer le momentum d'un match avec des mises en échec ou soit avec un bagarre, mais vraiment, vraiment donner de l'énergie, soit avec un échec avant, des mises en échec encore une fois, être vraiment, vraiment physique. Heinemann, il est physique, mais il n'est pas le plus physique.
Ouais.
Armia, il est physique si ça lui tente. On sait que pour protéger la rondelle, il est vraiment, vraiment fort. On sait qu'ils peuvent jouer le cycling game qu'on appelle, comment on dit ça en français?
Ouais, je sais pas trop, mais c'est beaucoup de temps de possession en zone offensive, on s'entend.
En fait, c'est un cycling.
Ouais. Mais tu sais, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient eu les succès. Est-ce que tu es surpris qu'ils ont eu le succès? Est-ce qu'il vient un peu de changer de la donne? Qu'est-ce que ça peut être une identité pour un quatrième trio?
Ben, pour vrai, c'est le quatrième trio moderne, mais pas comme le quatrième trio v'là 10 ans, v'là 20 ans, v'là 30 ans. Le hockey a complètement changé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, oui, il y a certaines équipes peut-être qui ont cette identité-là, de joueurs qui ont les plus gros gabarits, qui terminent les mises en échec, qui sont un peu plus intimidants, mais le hockey n'est pas nécessairement juste par rapport à ça. Moi, ce que je trouve de ce trio-là, c'est qu'ils sont intimidants, mais par leur vitesse, par leur éthique de travail, par leur acharnement sur des rondelles libres, par leur, tu sais, la fougue et le temps de possession qu'ils sont capables d'avoir en zone offensive. Tu sais, pour moi, ça, c'est une identité. C'est un trio qui a généré énormément de momentum pour le Canadien. Ça, faut pas se le cacher. C'est pas toujours par une production, mais des fois, c'est du temps de possession, c'est de l'échec avant, c'est des jeux qui sont intelligents, qui sont sensés, qui font progresser la rondelle toujours d'une zone à l'autre. Il y a beaucoup de choses, puis de limiter les revirements, de limiter, de nourrir les contre-attaques adverses, tout ça. Ce trio-là, pour moi, est un trio qui est très, très intelligent. T'sais, c'est trois joueurs qui, pour moi, je vais dire comme ça, mais c'est trois joueurs quand même qui ont du hockey sense. Fait que Ils feront pas de folie sur une patinoire. Ils ne mettront pas ton équipe dans le trouble en faisant des décisions qui sont un peu trop risquées. Ils sont très méthodiques dans la façon qu'ils font leur KO. Je vais le mettre de même, là, des
Ouais.
fois, là. Fait que ça, pour moi, ça c'est l'identité de ce trio-là. Le temps et l'espace sont vite sur l'échec avant. Tu regardes Evans, tu regardes Hanneman. C'est pas Armia, c'est pas le plus rapide, mais il est souvent là en support. Puis quand il se rend là, il protège la rondelle, puis il réussit à sortir avec, gagne beaucoup de bagarres. Fait que toutes ces choses-là, ensemble, font en sorte
Ouais.
que c'est un quatrième trio qui est efficace. C'est la somme de tous ces éléments-là que je viens de te mentionner qui font que ce trio-là est un parfait quatrième trio. Puis je te dirais même, la plupart des soirs, je pense que c'est Max qui l'a mentionné plus tôt, mais c'est plutôt le troisième trio. Puis ils sont tellement bons que tu n'es même pas capable de mettre Pezzetta sur ce trio-là. Pour vrai, c'est un peu ça, parce que Pezzetta amène la fougue, amène l'aspect physique que tu me parlais, mais il vient défaire un peu tout le côté méthodique de ce trio-là par leur intelligence, par la façon de travailler. C'est pour ça, une des raisons pourquoi Martin ne veut même pas les démanteler, c'est parce que ce trio-là va trop bien ensemble, puis ils font un travail remarquable dans leur identité, qui est propre à eux, et non nécessairement propre à ce qu'un quatrième trio, on pense qu'il devrait être à travers la Ligue nationale.
L'entraîneur du Utah Hockey Club, André Tourigny, d'habitude, a du bonbon dans le show de Martin Lemay, le retour des sportifs. Il a été vraiment hier pour parler, évidemment, du match contre le Canadien qui va avoir lieu ce soir à 21h de l'Est, 19h heure de Utah. On entend André Tourigny sur comment arrêter Patrick Laine en avantage numérique.
As-tu regardé la vidéo de Laine?
Ben oui, c'est ça.
Capable de me trouver trois manières de scorer? Pas besoin de trois, il y en a besoin d'une, lui. Okay. Ça marche.
Comment tu vas faire pour l'arrêter?
Je sais pas, on sera pas capable. Hein? On va te laisser. On fera comme tout le monde, on sera pas capable.
C'est clair.
Hey, Denis, j'ai dit quelque chose. Hey, comment tu vas faire pour l'arrêter? On va faire comme tout le monde, on serait pas capable.
J'adore le sarcasme d'André Tourigny dans cette façon de faire. C'est sûr que tout le monde a un plan de match. Tout le monde a un plan de match contre Ovechkin. Tout le monde a un plan de match contre Patrick Laine. Mais ces gars-là, c'est des talents élites pour une raison. C'est même si on le sait, c'est éventuellement, on va se rendre. Il y a des façons, tu sais. Il y a des étapes souvent à passer je donne l'exemple du jeu de puissance, mais il y a des étapes à passer avant de se rendre à Ovechkin, avant de se rendre à l'aîné. Tu sais, il ramène la rondelle dans le bas de territoire, tu fais descendre la barre, hop, une passe en haut, tu prends ça. Il y a pas de façon de le défendre, à moins de coller quelqu'un absolument dans ses culottes, puis qu'il bouge pas, puis qu'on joue le reste. T'sais, du jeu à 4 contre 3 au lieu d'être à 5 contre 4, il n'y en a pas de façon de défendre ces gars-là parce qu'ils trouvent toujours des trous. Puis il faut toujours que tu sois aussi dans la mesure de respecter les autres menaces sur la patinoire. Puis là, ce qui est le fun chez le Canadien, ce qui fait que ça rouvre l'année beaucoup, c'est qu'on a d'autres menaces chez le Canadien. Tu t'as Hudson, t'as Caulfield, t'as Suzuki. Tous ces gars-là peuvent te battre d'une façon différente avec une passe, avec un tir, avec un lancer sur réception. Fait que tu sais, t'es obligé de respecter tout le monde. Fait qu'à un certain moment donné, il y a une brèche qui va s'ouvrir, puis un tireur comme Patrick Laine va faire en sorte qu'il va te faire mal pareil, parce que tu le sais toujours de où il va lancer, tu sais comment il va lancer, puis tu sais probablement de où la passe va venir, mais les étapes avant permettent toujours d'ouvrir ça à un certain moment donné, même si t'es conscient, puis t'as un bâton dans la ligne, puis t'as essayé de couper des lignes de passe. Sans dire qu'il n'y a rien à faire, mais c'est tellement difficile à contrer, même en sachant le plan de match adverse.
Je veux juste clarifier quelque chose. Marinaro, de retour dans le forum, j'ai dit que depuis que je suis sur le beat du Canadien, que j'ai commencé là 2002, de façon non officielle, à temps partiel, 2003 à temps plein, je m'en souviens pas la dernière fois qu'un joueur a été heurté comme piéton pour rater du temps en jeu, puis il y en a plusieurs qui nous le disent par messagerie texte que, évidemment, la mort tragique de Johnny Gaudreau, je voulais juste simplement dire, depuis que je suis sur le beat du Canadien, je m'en souviens pas d'un joueur du Canadien qui s'est fait frapper par une voiture comme piéton qui a raté du temps de jeu. Non, c'était comme vraiment comme un joueur des Canadiens, mais oui, on pense à Johnny Gaudreau à tous les jours. On va parler, avant d'y arriver, à André Tourigny, le fameux système défensif des Canadiens, là. J'aimerais que tu entends, Denis, le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, sur Juraj Slafkovský.
Yeah, I think the last few games have been good. You know, kind of called himself out, on our road trip a little bit. You know, which is nice to see from a young guy, and you know, he really know, brought his A game recently. So, you know, it's been good. And, you know, we're chatting a lot as a line, trying to, you know, get things sorted out. And, you know, we're playing well. So, we just want to keep that going as well.
OK, Suzuki dit que ça va bien dernièrement. Il dit, tu sais, même Slavkovski s'est dit lui-même, s'est pointé lui-même du doigt pour dire qu'il peut jouer du meilleur hockey. Et là, il l'a fait. En tout cas, il y avait un autre clip que j'ai entendu aussi hier. Je ne sais pas si on l'a ou on l'a pas. Mais là, quelques minutes plus tard, il dit, il se met beaucoup trop de pression sur les épaules. Il ne devrait pas se pointer du doigt comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire-là de Nick Suzuki qui dit, ben, tu sais, bravo à Slav. Il était capable de se regarder dans la mémoire. Il s'est même callé out lui-même. Il s'est callé out lui-même. Il joue mieux. On communique beaucoup comme un trio. On va mieux maintenant. Mais là, ensuite, il avait dit, mais il se met trop de pression sur les épaules. Il ne devrait pas le faire. Denis, es-tu là?
Il est sur mute.
Ah, désolé.
Non, c'est correct. T'étais sur mute. Ça m'arrive aussi, ouais. Mon chum. T'as entendu la question parce que je peux la poser de nouveau. Oui, oui.
Non, c'est bon, j'ai tout entendu. Écoute, ouais. Une des choses les plus dures pour des jeunes aujourd'hui, pour moi, c'est de l'auto-évaluation. Tu sais, de savoir quand tu joues bien, quand tu joues mal et le pourquoi. Puis c'est une des choses qui est assez difficile à acquérir sans humilité quand tu vieillis, quand tu grandis. Fait que tu sais, De voir Slavkovski comprendre ça, puis de savoir que ça va pas si bien, puis de pas penser que ça va bien quand ça ne va pas bien, ça, pour moi, c'est une belle chose. Maintenant, t'es pas obligé de t'exposer toujours au public. Je respecte beaucoup le fait qu'il sort dans le public, puis qu'il dit « Regarde, j'ai pas bien joué, je suis capable de mieux, toujours. » Mais t'sais, ça, tout le monde va respecter ça. Des fois, l'autocritique, des fois, je pense que Suzuki l'a dit, t'es ton propre pire ennemi. Des fois, c'est que ton langage interne puis l'auto-flagellation fait en sorte souvent que t'as un sens de découragement, de frustration, puis tu t'en vas pas dans la bonne direction. Fait que, tu sais, il y a toujours un juste milieu là-dedans, mais Slavkovski avait raison. Il jouait pas son meilleur hockey, puis il l'a clairement dit. Une fois que c'est dit, parfait, on n'est pas obligé d'aller plus loin que ça. Il est conscient. Tout le monde maintenant au Québec le sait qu'il est conscient de cette situation-là. Et maintenant, ce qu'on voit au moins, comme Suzuki l'a mentionné, c'est que dans les derniers matchs, a pris des pas vers l'avant pour corriger la situation. Je joue beaucoup mieux, un peu plus, tu sais, plus en mouvement, bouge les pieds beaucoup mieux, protection de rondelle, s'implique un peu plus physiquement. Il y a encore des choses à améliorer, à corriger, mais pour moi, c'est un signe très positif d'avoir un jeune comme ça, être capable de s'auto-évaluer comme faut, puis de prendre les moyens de pas se creuser un fossé trop profond que t'as de la misère à sortir de ça après, parce que, tu sais, la confiance, c'est tellement fragile. C'est difficile à acquérir. Mais une fois que tu l'as, il faut la maintenir, puis de te retrouver des fois dans des bas-fonds, c'est plus facile qu'on pense. Bravo pour lui.
Avant d'arriver à André Tourigny sur le système défensif du Canadien, toi, qu'est-ce que tu ferais maintenant avec la perte des Melanemans sur le quatrième trio?
Ben là, on n'a pas le choix. Il va falloir donner plus de minutes à Pezzetta. C'était le gars d'extra, puis il était le 12e attaquant à tous les soirs. On n'avait pas de joueur extra, puis on jouait en moyenne 4 minutes et demie par match. Fait que, tu sais, on avait peur de le faire jouer. Si on n'a pas le temps de rappeler personne de Laval, parce qu'on joue dans l'Ouest présentement, puis c'est un incident qui est arrivé de dernière minute, ben,
ouais.
On n'aura pas le choix, mais tu sais, je remettre sur papier le genre de composition de trio, puis je m'arrangerais pour avoir un top 9 puis avoir deux gars qui ont une rotation là-dedans sur un quatrième trio, mais tu sais, là, t'auras pas le choix. Martin va être obligé de faire quelque chose qu'il voulait pas faire, c'est de changer ses trios puis changer un peu la chimie qu'il y avait là-dedans. On sait pas si Noah va être en mesure de jouer à la grippe qui, peu importe quel genre de grippe qu'il a, on sait pas s'il est en mesure de jouer. Fait que ça va laisser un autre trou dans son alignement. Fait qu'il n'y aura pas le choix de changer les compositions.
Ouais.
La ligne de chant ne change pas, mais moi, je pense que si c'est le cas, tout au long de la soirée, les trios vont changer. On n'aura pas de combinaisons qui vont être stables. Ça, je suis pas mal certain.
Quelques précisions de Chantal Maccabée, les gars. Emil Hanneman était seul lorsque l'accident est arrivé et personne n'a été rappelé.
OK.
Et personne ne sera rappelé pour le moment.
Le voilà. OK. André Tourigny, maintenant, sur le système défensif des Canadiens.
Que tu te prépares de la même façon que lors du dernier match. Tu sais, quand une équipe a vraiment pas le même portrait que la dernière fois que tu l'as vu, ça se passe comment?
Juste de la même façon, mon gars. Ça fait juste mieux les affaires.
Oh, hey, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans le sens que ils n'ont pas changé le système.
Le voilà. Ils n'ont pas changé leur système. Denis, est-ce qu'ils ont changé leur système?
Ben, en tout cas, moi, il n'y a rien qui me dit qu'ils ont changé. Ils ont peut-être fait des ajustements dans certains petits aspects ou zones grises qu'il y avait dans le système, mais j'ai pas vu de rien de qui, pour moi, est très, très différent lorsqu'ils sont dans leur territoire sans la rondelle, puis qu'on est en position de défendre. Puis tu sais, c'est un peu le message que j'ai dit depuis le début de l'année, puis je te dirais même comment depuis l'année passée, lorsque ça allait mieux. Tu sais, dans les mauvaises séquences cette année, c'est pas tout le monde parlait du système de jeu, puis qu'on a changé. Non, on n'a rien changé. C'est juste la façon de l'exécuter, la façon de le travailler. Puis tu sais, il y a des performances individuelles qui étaient pas au niveau. Il y a des avec et sans la rondelle. Pour moi, il y a des décisions qui se prenaient mal ou on avait des difficultés à savoir c'est quand, des fois, qu'il fallait changer de couverture selon le positionnement de la rondelle dans le territoire. Mais une fois qu'on a éclairé ça, puis ça a pris du temps, on va se l'avouer, ça a pris beaucoup de temps avant de placer tous les pions aux bonnes places, puis de comprendre, puis on a changé, je sais pas si on a changé le langage, on a effacé la façon de les points, les trigger points, les coins de gâchette, si on veut, pour pouvoir partir la pression défensive. Mais tu sais, une fois que tout le monde est sur la même page, puis que tout le monde joue fort, puis tout le monde prend une certaine fierté à défendre, les choses se sont nettement améliorées chez le Canadien, puis ça fait partie du changement depuis le mois de décembre, où qu'on a commencé à avoir des meilleures performances, à accorder moins de tirs, à accorder moins de vues, tout ça. Fait que moi, je suis d'accord avec André, je vois rien présentement dans la façon de faire du Canadien, à part dans l'exécution du plan de match. Mais il n'y a rien dans le plan de match, pour moi, qui semble avoir nécessairement changé.
Gros match ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Tes impressions?
Ben, écoute, c'est pas un match piège, mais c'est une équipe qui va pas mal moins bien, Utah, présentement.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est un peu plus de difficultés. Fait que ce qui est important pour le Canadien, c'est, tu sais, de rester serré, rester tissé, pour connaître le même genre de performance. Puis pas penser que c'est comme un match, oh, finalement, là, on joue pas contre Dallas, on joue pas contre la Floride, on joue pas contre des gros clubs, on peut un peu plus respirer, puis non, c'est le même genre d'effort que ça prend. T'sais, tu changes absolument rien. La recette, elle est bonne présentement, ça te donne du succès, ça te donne des opportunités de gagner à tous les matchs, puis t'as une confiance présentement. Fait que faut pas se laisser distraire, parce que l'histoire de Namin, ça va être une distraction, ça c'est certain.
Oui.
Fait que tu sais, faut être fort là-dedans, faut être concentré, bien préparé, puis pas laisser cette distraction-là venir empiéter dans le match d'aujourd'hui. Mais je m'attends pas nécessairement à une baisse de régime. Moi, je m'attends à ce que le Canadien sorte fort. Puis tu sais, l'adversité, ça fait partie de devenir un bon pro, puis ça fait partie de devenir une équipe éventuellement championne. Puis ça, pour moi, aujourd'hui, c'est de l'adversité. Tu perds un joueur sur ton quatrième trio qui joue très bien en NMN. Tu sais pas si Nook va être là, il est-tu en santé? Puis s'il joue, est-ce qu'il va être à son maximum? Est-ce qu'il va être capable? Toutes sortes de choses. Que ton gardien de but va revenir, tu sais, de donner une autre solide performance. Plein de facteurs, mais moi, je m'attends à ce que le Canadien ne sorte pas encore. Puis on devrait avoir un bon match. Puis Tourigny, je suis convaincu que jouer contre le gardien de Montréal à toutes les fois, ça a un petit quelque chose, là, même s'il n'a jamais appartenu au Canadien, mais c'est un Québécois, puis le Canadien veut toujours dire quelque chose pour les Québécois, fait que je m'attends à ce que lui aussi prépare son équipe de la bonne façon pour jouer fort contre nous.
Sean Durzi, qui est blessé en ce moment, il joue 21-28 par match, défenseur de Utah. C'est peut-être leur deuxième meilleur défenseur offensif après Sergachev. John Marino est blessé, Robert Bortuzzo, mais Bortuzzo, c'est un défenseur plutôt de sixième, septième défenseur. Mais ils ont trois blessés, puis Dylan Gunter, évidemment, qui connaît toute une saison, lui est blessé aussi. Donc, Canadien joue contre une équipe qui est maganée puis décimée ce soir en Utah. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Denis, on se parle jeudi matin.
Parfait. Bonne journée, tout le monde.
Salut, mon chum. Le voilà, bye Denis Gauthier.